C'est en écoutant Radioactivity de Kraftwerk que j'ai découvert le phénomène. Soudain, je désirais partir à Tchernobyl, marcher dans Hiroshima, remonter le fleuve Susquehanna jusqu'à Swimming Ice Island. Cette musique évoquait, avec ses notes rares et régulières, l'existence d'un monde autant condamné qu'intensément désirable. Cela m'avait fait la même chose en écoutant en boucle, en 2007, le 5e album de Britney Spears, Blackout. Il y avait bien, là, à part la promesse bizarre de démembrement de Piece of Me, à côté du principal single de l'album, j'avais aussi adoré la voix sombre de Get Naked et ses bizarres montées vers des aigus intolérables. Je me souviens encore de Break the Ice, aux tonalités franchement Eurodance. Tout cela me mettait dans un état d'euphorie inquiète.
It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting. But I'm here now.
Il n'y a aucune chanteuse que j'ai plus aimée que la Britney Spears de cette époque. L'impression difficile à définir me ramenait pourtant à mes fantasmes de fin du monde de Radioactivity. Le sentiment que cet album venait d'un autre monde, peut-être même de l'enfer, en tout cas d'un monde condamné, décharné, supplicié. C'était la mort que j'entendais directement. J'ai retenu de tout cela, aussi confus, inexprimable que cela soit, l'idée que les grands albums de musique sont la bande son rêvée d'un univers en perdition, à la fois le deuil d'une époque et son extrapolation terminale aventureuse et glacée. J'ai retrouvé intact ce sentiment en écoutant en boucle Onizuka de PNL l'été dernier. Il fallait que le silence se fasse dans la voiture pendant ces 13 minutes. Il fallait que le refrain arrive dans une solitude absolue, téméraire, que nous tentions modestement d'égaler sur l'autoroute de Normandie. Si l'un d'entre nous brisait l'enchantement dans l'habitacle, il fallait, de façon complètement fétichiste, repartir à zéro. Parfois, pourtant, le miracle se produisait. Le refrain tombait en même temps qu'apparaissaient les deux cheminées totémiques de la centrale de Porcheville qui transfiguraient un instant la région parisienne en Mordor. Même sentiment, douloureusement, délicieusement apocalyptique, en volant hier après-midi sous les yeux sidérés de mes enfants un SUV dans un parking de Los Santos avant de filer à travers la brume sur l'autoroute du Pacifique. C'était dans GTA, bien sûr, et la musique de l'autoradio était si belle. C'était After Hours de la DJ Black Madonna que j'ai modifié, mon plan initial qui était de prendre à droite après le tunnel pour aller voler le jet sur la base militaire. Mais rien ne me ramènera jamais au sentiment de béatitude de l'unique mission qui nous est quitté l'île du jeu pour le petit cimetière de Ludendorff à la recherche des fantômes du passé accrochés à la musique envoûtante de Tangerine Dream. Encore une fois, un décollement du monde, un voyage au pays des morts. La grande rivale de Britney Spears, période Blackout, c'était Christina Aguilera avec Jenny in a Bottle, un génie dans une bouteille. C'est la définition parfaite des idoles synthétiques marketées vocodées de la pop. Un grand album de pop comme Blackout est une sorte d'immense palais de verre dont les notes, trop rares, nous permettent à peine d'en écolocaliser la structure invisible. Nous en sommes dès lors réduits à l'imaginer, comme Herman Hesse nous demandait d'imaginer la mystérieuse machine, le grand orgue silencieux jamais décrit de son chef-d'œuvre, le jeu des perles de verre. Le monde musical, nous n'en connaîtrons jamais que les bruits métalliques des pensées que nous jetterons dedans comme des perles de verre dans un sombre, dangereux alambic, au risque à tout moment de le briser par une interprétation manquée. La méthode, je crois, a été inventée par Benjamin dans ses essais sur Goethe, sur le drame baroque et sur Baudelaire. Elle consiste à accomplir, par la critique, le rêve atrophié de l'œuvre d'art, et c'est cet héritage continué, légué secrètement aux cultural studies contemporaines, qui rend encore aujourd'hui la critique musicale si séduisante, même pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas écouter la musique, qui préfère la lire. Car la promesse de cette révolution dans l'esthétique, c'est de faire de la critique, peut-être, l'œuvre véritable, le lieu, en tout cas, des fantasmagories les plus complètes et les plus vastes. Les œuvres d'art appartiennent au monde, mais le monde, sans les roues mobiles de la critique, sans les ailes déployées de l'interprétation, serait un astre mort. Et c'est cela sans doute que je perçois dans la musique réelle, par rapport à celle que je spécule, son appartenance irrémédiable au monde de la mort, à celui des choses inanimées, avant que la critique ne vienne la prendre dans ses bras et la ressusciter.